Alors, si vous voulez tourner avec moi, on va aller dans Genèse, le chapitre 2, les versets 8 à 17. Genèse, chapitre 2, versets 8 à 17. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en quatre bras. Le nom du premier est Pishon, c'est celui qui entoure tout le pays de Havila où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon, c'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième est Idekel, c'est celui qui coule à l'orient de l'Assyrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Alors on va demander au Seigneur de bénir notre étude. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons à ta présence, nous sommes tes enfants. Seigneur, nous t'aimons, nous désirons recevoir ta parole, nous désirons surtout lui obéir et mettre en pratique les principes qui sont contenus dans le passage que tu veux nous enseigner ce matin. Seigneur, que ton esprit nous éclaire, nous guide, nous instruise, nous ouvre l'intelligence et tout l'être à la réception de ta parole, Seigneur, de manière à ce qu'elle produise un effet transformateur dans nos vies, pour que nous ressemblions un peu plus chaque jour à ton Fils Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle, Seigneur, tu nous as donné la vie spirituelle. Alors, Seigneur, sois avec nous ce matin et bénis-nous d'une façon abondante. Et nous voulons, par la même occasion, Seigneur, nous reconnaissons que nous sommes des pécheurs et que cette semaine, de toutes sortes de façons, dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actions, dans nos omissions et même par des fautes secrètes, Seigneur, nous avons péché contre toi. Nous te demandons humblement pardon et nous te demandons, Seigneur, de bénir abondamment ce culte aujourd'hui et que nous bénéficions de ta parole et aussi de la communion fraternelle que nous pouvons jouir avant et après le culte. Nous te demandons ces choses en Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Alors, j'ai intitulé le message aujourd'hui tout simplement « Éden, le jardin de Dieu est révélateur ». On voit trois grandes révélations que le Seigneur fait dans ce passage-là de Genèse 2, versets 8 à 17. D'abord, il est révélateur de la provision divine. Autrement dit, il nous dit que, bon, il nous a donné un endroit où il y avait de l'eau, il y avait des arbres, et il y avait tout ce que l'être humain pouvait avoir pour son bonheur. Maintenant, dans les versets 9 et dans le verset 16 à 17, il est révélateur d'une période de probation. Autrement dit, on sait tout ce que c'est une période de probation. Si quelqu'un veut nous engager, puis il dit « Ok, je te prends, mais pour une période de 3 mois, période de 6 mois, Dieu met l'homme dans le jardin, mais il le met en probation. Il lui dit « Maintenant, tu n'as pas le droit de faire ça. » La seule chose qui lui donne une contrainte, c'est qu'il n'a pas le droit de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le reste, tu peux tout prendre. Et il y avait les conditions idéales de vie et pour être parfaitement heureux. Et alors, le Seigneur nous montre, il lui a donné aussi une probation. Et si on regarde le passage dans son ensemble, c'est sûr que ce n'est pas dans le texte comme tel, mais ça parle aussi de prophétie. Donc, il y a trois choses qu'on voit dans le texte, la provision divine, la probation divine et aussi la prophétie divine. Parce que ça parle de paradis et à quelque part, le passage de Genèse, il est repris continuellement dans les Écritures, jusque même que dans l'Apocalypse. On va regarder ça un petit peu. Alors, on avait vu dans les premiers versets du chapitre 2 que Jéhovah Elohim avait créé Adam de la poussière de la terre, qu'il avait soufflé dans ses narines un souffle de vie et qu'il était devenu une âme vivante. Maintenant, Dieu va révéler le paradis terrestre dans lequel l'homme a été placé pour son bonheur et pour son plaisir. Alors, bien sûr, on a parlé de probation. Alors, le premier point qu'on va regarder, c'est les versets 8 à 15, l'Éden révélateur de la provision divine. Dans sa bonté infinie, Dieu lui-même a aménagé un lieu où se trouvera l'homme pour vivre une vie parfaitement heureuse et remplie de plaisir. En passant, le mot « Éden » en hébreu veut dire « plaisir » ou « délice ». Alors, il avait placé l'homme vraiment dans un lieu qui était vraiment idéal. Alors, on va regarder quand même quelques-unes de ces caractéristiques de ce lieu-là. Alors, c'est un lieu qui a été divinement aménagé. Des fois, on regarde la nature, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais l'été, l'hiver, on voit toujours un paquet de belles choses. Et on sait qu'à l'heure actuelle, la Terre, il y a beaucoup de pollution, il y a beaucoup de choses qui viennent briser sa beauté. Mais si on imagine jusqu'à quel point ça pouvait être beau quand Dieu l'a créé et que l'homme n'avait pas encore mis sa souillure là-dessus, on regarde des fois les rivières, on regarde les lacs, on regarde les montagnes, on regarde le ciel. À cette heure, des fois, on regarde certains paysages. Des fois, j'ai vu une émission sur la Chine. C'était tellement pollué, là. Le monde se promène avec des masques. Les cours d'eau sont jaunes, verts, bleus, oranges, toutes les couleurs. Alors, l'homme a mis sa marque de péché un peu partout. Mais essayons d'imaginer qu'est-ce que le paradis terrestre, autrement dit Éden, qu'est-ce que ça pouvait avoir l'air quand le Seigneur l'a créé la première fois. On peut se demander où ça se trouvait, ça, Éden. D'après les spécialistes, à cause des quatre fleuves, il y a certains fleuves dont ils ne sont pas certains, mais l'Euphrate est encore là, et le Hiddekel, c'est le tigre qui est mentionné dans Daniel 10. Alors, à cause de ça, on fait des déductions que ça serait fort probablement à quelque part en Mésopotamie. Alors, c'est la région, dans cette région-là que le Seigneur aurait établi cet endroit-là. C'était un endroit et non pas un mythe. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes enseignent que le paradis terrestre ou Éden, c'était un mythe. Autrement dit, c'était un rêve humain pour raconter les débuts de l'humanité, mais c'est pas un rêve. Si les Écritures, le Saint-Esprit prend la peine de localiser l'endroit avec les fleuves, c'est pas juste un mythe. Alors c'est un lieu qui est divinement aménagé, ça devait littéralement regorger de toutes sortes de beautés extraordinaires à l'époque, alors que l'être humain n'avait pas encore mis ça devait être un lieu qui devait être très agréable pour les yeux. On sait quand on jouit d'un beau paysage, c'est-tu beau un beau paysage? On est charmé par un beau paysage. Donc c'est les yeux, l'odorat, parce que ça dit que c'était des arbres fruitiers. Je me souviens d'un gars à Québec, m'avait déjà raconté qu'il avait été en Californie, en Biscagos. Puis il dit qu'il a traversé des champs d'oranger ou de pamplemoussier. Il dit, tu rentres là-dedans, là, ça te monte au nez. Là, les odeurs de fruits qui sont extraordinaires. Donc, ça fait sûrement des plaisirs pour les yeux, pour l'odorat et pour l'intelligence. C'est un vrai plaisir pour l'intelligence de regarder ce que Dieu fait qui est extraordinaire. Que ce soit au ciel quand on regarde les étoiles le soir, ou que ce soit une rivière, que ce soit une montagne, c'est toujours extraordinaire de regarder ce que Dieu fait. C'était un lieu aussi où le Seigneur avait prévu tous les besoins de l'homme. L'homme était dans un état d'innocence, il n'avait pas encore tombé, et Dieu l'avait placé dans un endroit absolument idéal. Il n'y avait absolument rien qui pouvait le rendre malheureux, là. Rien du tout, du tout. Alors, c'était un lieu aussi qu'on pourrait dire divinement luxuriant. Quand on parle d'une nature luxuriante, on définit, le dictionnaire définit le mot luxuriant de la manière suivante, qui pousse, se développe avec une remarquable abondance. Et quand on regarde un pays, des fois certains pays d'Amérique centrale ou d'Afrique, quand on regarde la nature, c'est vrai que c'est luxuriant, ça abonde. Alors la nature était abondante, luxuriante, qui était capable de combler absolument tous les besoins d'Adam et Ève, et c'était aussi richement arrosé, et c'était d'une grande fertilité. C'était un lieu aussi de vie, dans le verset 9. Alors, la vie, on le sait, quand on se promène n'importe où, l'été surtout en particulier, on le voit encore plus, la vie est partout, les fleurs. Je me souviens des fois, j'avais été prendre une promenade d'automobile dans le bout de Granby. On avait été voir une exposition d'automobile, des vieilles autos, à Bromont. Je me souviens, on se promenait et on voyait des champs de fleurs l'été. Il y en avait des champs, c'était des fleurs oranges. D'autres, c'était des petites fleurs jaunes, je ne sais pas que... Mais c'était des champs complets, là. Tu passes, là, puis tu regardes ça, là. C'est vraiment extraordinairement beau. Alors, c'est un lieu plein de vie. L'été, d'une façon particulière, on le voit encore beaucoup plus. Mais c'est sûr que l'endroit où Adam et Ève a été placés par Dieu lui-même était un endroit où il y avait beaucoup de vie. Parce qu'on dit qu'au milieu du jardin, il y avait l'arbre de vie. Je me souviens une fois, à Rouyn-Noranda, il y a une fille qui vient me voir et elle dit « L'arbre de vie, on sait-tu ce qui est? » C'est comme si sa question laissait sous-entendre « Si vous me dites où ce qui est, je vais aller en manger. » Je ne pense pas que c'était ça que le passage veut nous enseigner. Le passage nous dit que c'est il y avait l'arbre de vie. Donc, c'est Dieu était en communion avec ses créatures d'une façon harmonieuse. Donc, l'homme et la femme, de ce moment-là, jouissaient de la présence de Dieu et vivaient en communion avec lui. Dans le Nouveau Testament, le fait de manger le pain et de boire la coupe du Seigneur ne donne pas la vie spirituelle, mais illustre que le chrétien se nourrit par la foi des bienfaits de la mort de Christ qui nous donne son salut. C'est un lieu de crainte du Seigneur aussi. Il y avait un autre arbre, et là, Dieu commence à montrer qu'il a le droit de dominer sur notre vie morale. En donnant un commandement à l'homme, tu ne mangeras pas de l'arbre du fruit de la science, de la connaissance du bien et du mal, c'est qu'il était en train de dire à l'homme, tu n'as pas le droit de déterminer par toi-même ce qui est bien et ce qui est mal. Pourtant, c'est ce que les hommes font aujourd'hui. Les hommes aujourd'hui regardent, si on regarde autour de nous, dans tous les pays du monde, il y a du péché qui se commet en abondance. Même les gouvernements sont rendus qui sanctionnent le droit à vivre certains péchés. Mais l'homme n'a pas le droit de faire ça. Qu'est-ce qui détermine si quelque chose y est bien ou si quelque chose y est mal? Bien entendu, c'est la parole de Dieu. C'est le décalogue qui détermine, qui régit notre vie morale. Alors, bien entendu, le fruit... La connaissance du bien et du mal, ce n'était pas un fruit empoisonné, c'était tout simplement une interdiction que le Seigneur donnait à Adam et Ève pour ne pas manger cette affaire-là. Quand on regarde aussi les versets 10 à 14, on voit que c'est un lieu subjectif et évocateur. Pourquoi on parle d'or? Pourquoi on parle de pierre d'onyx. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont déjà étudié le tabernacle. Comme moi, j'avais déjà fait une étude assez approfondie à Rouyn-Noranda sur le sujet. L'or a toujours représenté la divinité. Quand on parle du lieu très saint, à l'intérieur du lieu très saint, il y avait un coffre. Et ce coffre-là, la base était faite en bois d'acacia et recouvert d'or. Le bois d'acacia représente l'humanité de Christ, l'or représente la divinité de Christ, et le couvercle, qu'on appelait le propitiatoire, était d'or massif. Ça représentait la divinité de Jésus. Alors Jésus, ça représente le coffre de l'Alliance, représentait la personne même de Christ. Le couvert, avec les deux anges dont les ailes se touchaient l'un à l'autre, représentait la parfaite divinité de Christ, tandis que la base faite de bois recouverte d'or représentait l'humanité et la divinité de Christ, l'homme-Dieu, autrement dit, avec les deux natures. Pourquoi on dit que c'est un lieu subjectif et évocateur? Parce que si on va étudier un petit peu plus loin dans Exode à partir du chapitre 25, aller jusqu'au chapitre 40, on a la description du lieu, le tabernacle, où Dieu voulait que son peuple aille adorer. Alors, les noms qu'on trouve là-dedans, pourquoi je dis que c'est subjectif et évocateur? Parce qu'il y a l'or, il y a la pierre d'onyx. Si vous vous souvenez, le pectoral du sacrificateur, il y avait des pierres d'onyx là-dessus. Alors déjà, on voit certaines choses qui sont mentionnées qui vont revenir plus tard, qui vont être utilisées dans les Écritures. C'était un lieu d'activité aussi, le lieu où le Seigneur a mis Adam et Ève. On le voit dans le verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme, le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Chose intéressante, quand vous regardez la vie de n'importe quel grand roi, Louis XIV, Nebuchadnezzar, le passe-temps des rois, c'est des jardins. Parce que quand tu n'as plus de soucis, tu veux te faire des endroits magnifiques, et les rois ont toujours eu des jardins extraordinaires. Alors, c'est quand ça dit, il a pris l'homme, il l'a mis dans le jardin, puis il lui a donné une activité royale. Parce qu'il y a juste les rois qui ont le moyen d'avoir des super... Nous autres, on peut avoir des petits jardins, mais c'est pas des jardins comme... Vous allez à Vancouver, par exemple, vous allez à Stanley Park, c'est tellement extraordinaire. Il y a plein de jardins comme ça, surtout dans les jardins... Aujourd'hui, il existe encore des rois qui ont ces jardins-là. Mais ce qui est à retenir, c'est vraiment l'idée que Dieu t'a placé dans des conditions idéales, avec tout ce que tu avais besoin pour manger, avec l'air pur, il devait être pur à peu près, l'eau devait être pure à 100%. Alors, tout était extraordinairement bien planifié pour les activités de l'homme. Ça dit pour le cultiver et pour le garder. Alors, l'homme trouvait son plaisir, comme le roi, comme les grands rois. Prenaient leur plaisir à avoir des jardins magnifiques et à agencer tout ça pour que ça soit beau à l'œil. Alors Dieu nous a créés pour travailler, non pas pour rester oisifs. Même le premier couple, Adam et Ève, était là, ils travaillaient, ils prenaient plaisir. Il y a certaines activités qu'on fait auxquelles on prend un grand plaisir. Alors le mot « Éden » signifie « plaisir, délice ». C'est intéressant aussi de voir que vous avez déjà entendu parler de la version biblique qui s'appelle la Septante. La Septante, c'est la version grecque de l'Ancien Testament. Autrement dit, les Juifs étaient partis de leur pays et ils s'étaient répandus un petit peu partout sur la terre, surtout en Asie. Et ils avaient voulu, parce que là, la langue qui était devenue la langue connue de l'époque, c'était le grec. Ils avaient pris les Écritures de l'Ancien Testament, ils avaient traduit en grec pour ce qu'on appelait les Juifs de la diaspora. La diaspora, ça veut dire ceux qui sont à l'extérieur de leur pays. Alors, les autres, quand ils ont traduit la Bible de l'Ancien Testament, ils l'ont traduit en grec, ils ont traduit l'expression Le Jardin d'Éden, ils l'ont traduit par les mots suivants. Le paradis des délices. Littéralement, si vous prenez une septante, là, vous allez dans le grec, ils vont traduire littéralement que l'endroit où Dieu avait placé Adam et Ève était un endroit de délices. C'est vraiment une idée qui rejoint celle qu'on peut retrouver dans le Nouveau Testament. Par exemple, dans 1 Timothée, chapitre 6, verset 17. « Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. » Non seulement il l'avait donné au premier homme, mais il l'a donné à l'ensemble de l'humanité. Il dit qu'il nous donne toutes choses en abondance. Alors, ceux qui, s'il y a une mauvaise répartition des richesses de Dieu sur la terre, c'est pas la faute de Dieu, c'est vraiment le péché de l'homme qui fait en sorte que c'est mal distribué. Maintenant, on va arriver au verset 16 et 17. On a vraiment la deuxième idée. Donc, la provision divine est là. Dieu a donné à l'homme tout ce qu'il avait besoin. Maintenant, la probation divine, c'est là que commence, on voit le problème potentiel que l'homme va rencontrer sous peu dans le chapitre 3 de la Genèse. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Il n'a pas donné une recommandation. Il a donné un ordre. Moi, je sais ce que c'est un ordre. J'ai été dans l'armée. Puis quand il y avait un officier qui me disait « Marcel, fais ça », Marcel le faisait. Parce qu'il savait que dans l'armée, quand tu donnes un ordre, c'est pas le temps de discuter, il faut que tu exécutes. Dieu n'a pas choisi les mots, a donné une recommandation. Il a dit, donnant cet ordre à l'homme, donc à l'homme, bien entendu, ça voulait dire les deux, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. On sait, trois sortes de morts dans les Écritures, quand on parle de mort, il y a la mort physique, tout le monde y passe, il y a la mort spirituelle, tout être humain qui vient au monde est mort spirituellement, et il y a la mort éternelle. Alors, si tu viens au monde, tu es mort spirituellement, et que Dieu ne te fait pas la grâce de te régénérer, de te donner la vie nouvelle, de naître de nouveau, si tu meurs dans cet état-là, c'est la mort éternelle. Alors, quand Dieu donne l'ordre, tu mourras certainement, on le sait, on meurt tous physiquement. Tous les hommes qui viennent au monde à cause de la faute d'Adam et Ève héritent de la mort spirituelle. Et Dieu, dans sa grâce souveraine, accorde la vie à certains individus selon son bon plaisir, comme ça nous dit dans les Écritures. Alors, c'est une probation qui est divinement exprimé sous la forme d'un ordre. Dieu ne dit pas « ça te tente, mange-en, si ça te tente pas, mange-en pas. Mange-en pas, parce que si tu en manges, tu vas mourir. » Et on sait que un peu plus tard, quand on va arriver dans Genèse 3, on va voir qu'ils ont désobéi tous les deux. Non seulement ça a créé leur propre chute, mais ça l'a emmené par la même occasion la chute de tous les hommes qui naîtraient après eux. Et il leur dit qu'il les explique dans le verset 16 et 17 qu'ils pouvaient manger tous les arbres du jardin. C'est bizarre, hein? C'est toujours ce qui est défendu qui nous attire. On est encore comme ça aujourd'hui. Le pécheur dit qu'il a le droit à tout, puis dit qu'il y a une affaire défendue, puis c'est l'affaire défendue qu'il va vouloir avoir. Alors je pense que ça vient nous montrer que comme pécheur, on est toujours attiré par ce qui est défendu. Là, on sait qu'on va rentrer dans le chapitre 3, on va expliquer un petit peu plus les raisons pour lesquelles Adam et Ève ont manqué. Et il y a plusieurs raisons, ce n'est pas le but de ce matin. Alors, la sanction qui était rattachée à la désobéissance était, on ne peut plus être plus clair que ça, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Vous souvenez-vous qu'est-ce qui est arrivé quand ils ont mangé? Ils ont senti leur nudité et sont allés se cacher. Ils savaient que leur communion avec Dieu était brisée. Alors, une interdiction était vraiment catégorique. Désobéir à Dieu, en quelque sorte, c'est mourir. Je trouve que Proverbe, chapitre 3, versets 5 à 7, nous résume admirablement ce que la Genèse enseigne. Ça dit, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. » Quand ça dit « Reconnais-le dans toutes ses voies », l'être humain, en général, il n'y a pas trop de problème à reconnaître Dieu dans beaucoup de ses voies. Le problème, c'est souvent dans toutes ses voies. Peu importe le secteur de notre vie, que ce soit financier, que ce soit notre sexualité, que ce soit... Il n'y a pas un secteur, le travail, peu importe le travail, peu importe le secteur, on se doit de tout confier à l'Éternel et d'accepter d'être régi par ses lois. Pas parce que nous, on croit qu'il est bien. C'est lui qui détermine le bien et le mal. Alors, à quelque part, apprendre à reconnaître Dieu dans toutes nos voies sans exception, je pense que c'est le travail de toute une vie. Parce que ça prend du temps avant de lui laisser toute la place partout, partout, partout dans nos vies. Maintenant, si on regarde, ce n'est pas nécessairement inscrit dans le texte, mais je pense que l'idée est là que tout le passage de 8 à 17 nous parle de prophétie aussi. Nous parle de quelque chose, parce que le paradis, ce n'est pas quelque chose dont le Seigneur nous parle dans le livre de la Genèse et qu'ensuite, dans les Écritures, on oublie un petit peu tout ça. Ça revient de façon régulière dans le Nouveau Testament et jusque dans l'Apocalypse. Alors, c'est un concept qui, à quelque part, est prophétique. 1 Corinthiens, je pense que ça pointe vers plusieurs choses qui peuvent être expérimentées par l'homme. 1 Corinthiens 2, verset 9. « Mais comme il est écrit, » là, il parle du monde, du paradis, mais terre, paradis céleste. « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. » Il parle de l'avenir, il parle du ciel. C'est intéressant de voir les mots que le Saint-Esprit utilise pour nous parler du lieu futur où on va vivre. Des choses qu'on n'a jamais entendues. Il y a des choses qui nous charment l'oreille. Moi, s'il y a une chose que j'aime, c'est de la musique, la harpe. Ça me fait littéralement fondre. J'écoute ça, là, puis je viens tout mou en dedans. Mais ça, c'est des choses que l'être humain est capable de créer. Mais ça nous dit que ce que Dieu a préparé pour nous, là, on n'a jamais entendu quoi que ce soit qui peut ressembler le moindrement à cela. Et non seulement des choses que l'œil n'a point vues. On a vu des belles choses dans nos vies. Des beaux paysages, des beaux êtres humains, il y a toutes sortes de choses de très beaux dans la vie. Mais la Bible nous dit qu'on n'a jamais vu l'endroit ou les choses que Dieu veut préparer pour nous quand on va être rendu de l'autre côté. Puis, plus loin que ça, il va plus loin que ça, il dit « des choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme ». Quand on se fait une idée du paradis, moi je me souviens d'avoir déjà entendu quelqu'un me dire « Pour moi, là, le paradis, ça va être d'assis dans le ciel puis jouer de l'accordéon. » Un gars m'avait déjà dit ça. Pour lui, c'était le plaisir suprême. Il aimait jouer de l'accordéon. Puis pour lui, être au ciel, c'était jouer de l'accordéon. Je pense que on parle de choses que l'être humain n'a point vues, n'a point entendues et qui ne sont même pas montées dans son esprit, dans son cœur. Ce sont des choses complètement nouvelles. Alors, déjà, Dieu veut nous préparer à des idées qui vont venir plus tard dans les Écritures. Donc, c'est vraiment la prophétie. C'est intéressant de voir que la notion de paradis revient avec Jésus, quand on a le brigand sur la croix, juste avant de mourir, lui est, on peut dire qu'il était comme chanceux, juste avant de mourir, il a reconnu que Christ était le Seigneur et le Sauveur. Et le Seigneur lui a donné une belle réponse dans Luc 23, au verset 43. « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Et là, il ne parle pas du paradis terrestre, il parle du paradis céleste. « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Alors, on a la prophétie aussi du lieu futur. Quand on va, par exemple, dans l'Apocalypse, Dieu nous dit qu'on va avoir un corps ressuscité et glorifié. Et nous, comme croyants, on ne sera pas des esprits désincarnés pour l'éternité. On va avoir un corps, mais pas le corps qu'on a là, mais un corps glorifié. Alors, un corps glorifié. Dans l'Apocalypse, on parle de la nouvelle Jérusalem qui va descendre du ciel d'auprès de Dieu. Et pour faire le lien entre ce qui va dire quasiment à la fin des Écritures avec ce qu'on vient de voir dans Genèse 2 ce matin, il dit « À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie. » Et où faut faire les liens, hein? Ce qui a été dit au début, ce qui va être dit, ce qui va arriver à la fin. « À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. » Là, il y avait un paradis terrestre. Maintenant, il nous parle du paradis céleste. Il dit « À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. » On parle aussi dans l'Apocalypse de l'endroit qui va ressembler à un jardin aussi, une ville-jardin. Dans le fond, ça va être une ville-jardin. Voyez-vous, dans le dernier, Jean va donner dans Genèse, pas Genèse, mais Apocalypse 21, verset 3, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, et Dieu lui-même vit au milieu de son peuple. » Alors, le plaisir du ciel, ça va très certainement de voir Dieu lui-même avec toute sa richesse, avec toute sa sagesse, avec toute son intelligence. Et ça va être une source de satisfaction éternelle et qui va aller toujours en progressant. On va découvrir, après 1000 ans, qu'on va avoir découvrir le Seigneur. Normalement, on devrait se dire, ben là, j'en sais pas mal sur lui. Hein. Oui, tu vas en savoir pas mal sur lui. Mais au bout de 1000 ans, tu vas être loin de connaître le Seigneur. 2000 ans, tu vas te connaître plus que là 1000 ans, mais tu ne connaîtras pas encore le Seigneur. Jamais on n'atteindra le niveau de parfaite connaissance de Dieu, tellement il est grand. Ça va être une découverte constante, une découverte, un émerveillement, mais qui ne cessera jamais. On va apprendre des choses nouvelles, on va s'émerveiller, il va nous en montrer encore un autre, on va s'émerveiller, on va découvrir donc sa personne et aussi son œuvre. Je pense qu'un des plaisirs, ça va être qu'il va nous montrer la manière dont il a travaillé dans nos vies sur la terre, dont il a travaillé avec la vie des hommes, la vie des croyants. Quand Dieu va nous montrer toutes les choses, quand on dit que toutes choses contribuent au bien de ceux qui aiment Dieu, moi, c'est un verset que j'aime beaucoup parce que des fois, je dis souvent, je l'aime beaucoup, mais est-ce que je le comprends? Si on le comprenait, on serait comme croyant. Dieu nous dit que toutes choses travaillent ensemble. Vraiment, dans le grec, c'est le verbe « travailler ensemble ». Toutes les choses qui nous arrivent, c'est comme si ce serait un gros tricot. Puis tout ça, là, ça contribue à nous faire ressembler davantage à Christ, à nous préparer. C'est assez extraordinaire, hein? Parce que des fois, on vit des choses difficiles dans la vie. Qui n'a pas vécu? Je sens des 10 ans, je commence à savoir c'est quoi la misère. J'en ai eu, peut-être que je vais en avoir encore, je ne sais pas. Mais on vit des choses difficiles, Mais des fois, on a de la misère à croire que qu'est-ce que Dieu permet qui arrive dans nos vies, qui sont des circonstances que nous, on trouve douloureuses souvent. Que ce soit un événement heureux ou que ce soit un événement douloureux, Dieu se sert de toutes choses et il les tricote ensemble pour notre plus grand bien. Si vraiment on croyait ce verset-là, on ne chiolerait jamais. Jamais, jamais, jamais. On dirait, Seigneur, tu m'envoies ça, donc il y a une raison pour laquelle tu m'envoies ça, parce que tu es sage. En plus de croire que Dieu fait ça par amour, tu as une maladie, là. Quelqu'un vient te voir et dit, « Hey, Dieu t'aime, il t'envoie une belle grosse épreuve. » Ce n'est pas nécessairement facile à catcher, comme on dit. Mais cependant, si on croit ce que les Écritures disent, moi je crois que c'est vrai, peu importe la circonstance que Dieu permet qu'on vive dans nos vies, tout cela, ça contribue à ceux qui aiment Dieu. Ça contribue à ce qu'on soit meilleur, à nous faire ressembler davantage à Jésus-Christ. Tous les événements qui nous arrivent. C'est extraordinairement riche. Juste prendre ce verset-là, puis le comprendre, puis l'appliquer dans ta vie, c'est vraiment un gros contrat, comme on dit. Alors, on sait que quand on va arriver là-bas, ça va être un lieu où il n'y aura plus de péché, il n'y aura plus de souillure, où ça va être que beauté, où ça va être que ordre, où ce que ça va être harmonie. Peu importe où qu'on se trouve aujourd'hui, qu'on regarde autour de nous, tout ce qu'on voit, du désordre, du péché, de la violence, de la misère, du mensonge, de l'exploitation, et on pourrait allonger la liste quasiment à vitam aeternam. Au ciel, il n'y aura plus rien de tout cela. Plus de douleur, plus de maladie, plus d'épreuve. La jouissance de voir Dieu toujours, toujours, toujours. Et l'ennemi va avoir été écrasé, comme ça dit, toute opposition à Dieu va avoir été jetée dans l'étang de feu. Le peuple de Dieu va être là pour jouir de sa personne, le servir et lui obéir. Il n'y aura plus d'anathème, il n'y aura plus de malédiction. Si on veut faire des applications pratiques de ce texte-là qu'on vient d'étudier ce matin, c'est vrai que la première application est de bénir notre grand Dieu pour son infinie générosité, pour le bonheur de l'homme et son activité. Dieu a mis sur la terre beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses, en abondance, et on se doit de le louer pour son infinie générosité. Quand on dit le bonheur de l'homme, c'est son activité. Quand on a quelque chose à faire, puis qu'on sent qu'on est utile pour les autres, on est heureux. Parce que Dieu nous a construit, nous a bâti de manière à ce que l'activité, c'est-à-dire le précieux trésor de l'homme, on parle d'un trésor. Être actif, c'est un trésor que Dieu nous a donné pour en jouir. Psaume 65, verset 4. Heureux celui que tu choisis, excusez, et que tu admets en ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasirons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Proverbe 12, verset 27. Le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Alors on se doit de rendre grâce à Dieu pour l'abondance qu'il met sur la table, qu'il met sur la terre dans toutes nos vies, et aussi pour l'activité qu'il nous donne, dont les Écritures nous disent que c'est un précieux trésor. Donc, première application, bénir. Deuxième application, apprenons que le bonheur de l'homme consiste à apprendre à vivre dans l'obéissance et dans l'entière dépendance à Dieu. Ça, là, c'est une chose que pour moi, personnellement, c'est vraiment un objectif. Je demande à Dieu de me rendre complètement dépendant de lui en toute chose. Je me souviens, à un moment donné, j'étais à Quaticook. Puis il y avait une vieille dame, elle était âgée pas loin de 80. Puis je trouvais ça drôle de la manière qu'elle agissait des fois, parce que elle avait quelque chose à faire, il fallait qu'elle monte dans un petit escabeau de 3 marches. Puis là, elle disait, Seigneur, garde-moi là parce que tu sais que je peux m'enfarger, tu sais que je peux tomber. Je trouvais ça drôle à l'époque parce que moi, mes prières, c'était réservé presque uniquement aux choses importantes. Change de job, mais des affaires de monter sur une marche puis demander au Seigneur sa protection, il me semble qu'à cette époque-là, maintenant, j'ai changé d'idée depuis le temps, là, à cette heure, je sais qu'il n'y a rien de trop petit pour le confier au Seigneur. Peu importe ce que tu vis dans ta vie, il y a des choses difficiles, il y a des choses agréables. Même dans les choses agréables, demander la lumière de Christ, demander la bénédiction de Christ, dans tout ce qu'on fait, c'est une nécessité. Apprendre à voir Dieu dans les petites choses et de le remercier dans les petites choses, en tout temps, en toutes choses. Donc, apprendre la dépendance à Dieu. Alors, ça, on peut le demander à Dieu. Je pense que quand on demande des choses à Dieu qui correspondent à sa volonté, Dieu veut qu'on apprenne à vivre comme avant la chute. Dépendant de lui, il nous a tout donné, on vit dans le parfait bonheur. Mais la seule façon pour un être humain d'être heureux, c'est d'apprendre à obéir et à se remettre en état de complète dépendance envers Dieu. La troisième, les Saintes Écritures sont très riches en enseignements prophétiques. On dit souvent que les Écritures, c'est un tiers des Écritures, c'est de la prophétie. Alors, il y a des prophéties qui sont accomplies, il y a des prophéties qui restent à accomplir, mais l'étude de la prophétie en soi, c'est une étude passionnante. Quelqu'un qui s'embarque dans ça, là, il y en a, c'est un travail d'une vie, tu n'auras jamais fini de découvrir toute la richesse qu'il y a à l'intérieur de ça. Alors, on se doit, comme chrétien, de plonger dans l'étude et la méditation de la prophétie. Pourquoi? Parce que ça nous parle de notre Seigneur Jésus-Christ. Toute la prophétie, toutes les Écritures nous parlent de Christ. Il n'y a pas un chapitre des Écritures qui ne nous parle pas de Christ de façon directe ou indirecte. Christ est le centre et le thème des Écritures. Alors, quand on étudie la prophétie, souvent, si on étudie la prophétie, le retour de Christ, par exemple, on prend ce thème-là, on étudie ça, on parle de Christ. Alors, il y a le Christ, il y avait la prophétie qui annonçait le Christ à venir, il y a la prophétie quand il est venu, après ça, il y a la prophétie qui va revenir un jour. Et la prophétie, c'est un thème extrêmement riche des Écritures, et il y a un travail d'une vie vraiment étudier tout ça. Alors, si on le fait, on médite les Écritures, on médite et on étudie la prophétie. Bien entendu, ça va nous parler richement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et qu'est-ce que vous pensez que ça va être le résultat de tout ça? De l'émerveillement et de la bénédiction. Parce que plus on comprend ce que Dieu a promis, plus on comprend que Dieu est fidèle dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il dit, dans toutes ses promesses, plus la Bible devient chère pour nous, devient pas un livre qu'on lit 5 minutes le matin avant d'aller travailler, puis qu'on oublie après. Là. La Bible devient une nourriture réelle pour nous à chaque jour, parce qu'on trouve à l'intérieur des Écritures la glorieuse personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Que notre Seigneur Jésus-Christ soit béni, loué et adoré éternellement.